pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Depuis les Gilets jaunes, on se rend compte que le mouvement populaire est en train de se prendre une grosse claque par les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, on a été traumatisés dans les corps, dans les esprits. La violence d'État, elle est démente. Cette impunité des forces de l'ordre, là, elle n'est pas possible dans un État de droit. C'est pas le monde dont on veut. La France ne peut pas continuer à se gargariser d'être un État soi-disant démocratique, un État de droit. Où est née la Déclaration des droits de l'homme ? On a été montré du doigt par l'ONU. C'est quoi ce délire que vous êtes en train de faire subir au peuple français ? Et cette lutte collective, on le redira jamais assez, c'est une lutte collective pour l'intérêt commun. On se bat pas pour des intérêts privés, on se bat pour toutes et tous.
Et le bien commun et vital qui motive cette lutte, c'est l'eau, sans laquelle il n'y a pas de vie. Et derrière le vol et le saccage de l'eau, les ravages engendrés par l'agro-industrie, lutte contre les méga-bassines et leur monde. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com et pour votre radio encore libre préférée. Seconde partie de la restitution du procès du 27 mai 2026 au tribunal de Poitiers où étaient convoqués quatre porte-parole de leurs collectifs et syndicats respectifs. Julien Leguet, co-porte-parole de Bassines Non Merci, Benoît Feuillu, co-porte-parole des Soulèvements de la Terre, Nicolas Giraud et Benoît Jaunet, co-porte-parole de la Confédération Paysanne. Tous les quatre injustement accusés d'être organisateurs de la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Injustement, car un porte-parole n'organise pas. Il porte la parole de son organisation. Et comme en décembre 2025, vous allez suivre le procès grâce à de géniales comédiennes qui interprètent l'audience au fur et à mesure que leur arrivent des informations du tribunal.
Monsieur Bito, les témoins. Je vous rappelle le déroulé. Rappel de la procédure, rappel des faits de la cour, audition des témoins, audition des parties civiles, les questions des parties civiles, puis plaidoirie civile, avocat général et vos conseils. Je vous indique qu'il est interdit de filmer ou d'enregistrer. Monsieur Jaunet, quelle est votre date et lieu de naissance et est-ce que vous pouvez me redonner votre adresse ?
Je suis née le 3...
Votre adresse n'est plus le 15 rue des Lilas ?
J'ai changé.
Monsieur Giraud, quelle est votre date de naissance ?
Je suis née le
30... Ça commence mal, hein, on n'a pas les mêmes. Nous faisons corriger. Monsieur Leguet, même question ?
J'habite au 3...
Monsieur Garrigue, même question ?
Je suis née le 30...
Allez, la cucaracha, la cucaracha.
Vous avez été poursuivi pour les faits suivants. Organiser une manifestation interdite sur la voie publique. Le tribunal de Niort avait alors déclaré les peines suivantes. Nicolas Garrigue, 3 mois de sursis, interdiction de territoire des Deux-Sèvres et interdiction du port d'armes. Nicolas Giraud, 1 000 euros d'amende et interdiction du territoire des Deux-Sèvres et interdiction du port d'armes. Benoît Jaunet, 1 000 euros d'amende, interdiction du territoire des Deux-Sèvres et interdiction du port d'armes. Julien Leguet, 3 mois avec sursis et interdiction des territoires de Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline. Je rappelle les faits. Septembre 2021, des contestations de collectifs ont été l'occasion de dégradations, notamment le 29 octobre 2022. En dépit de l'interdiction de la préfecture le 25 mars, les manifestants ont manifesté. Monsieur Jaunet, Giraud, Garrigue, Leguet étaient présents et ont pris la parole sur place. Des documents étaient distribués à tous sur les sites des collectifs. Le 10 mars 2023, on a pu lire « On va se blinder derrière les élus ». Ou encore « Il y a un tuto pour découper des tuyaux à la meuleuse ». Le 13 mars 2023, un communiqué de presse bassine était publié suite à l'interdiction de manifester, avec le lien d'un fil Telegram pour se rendre à la manifestation, avec à la fin les noms de Monsieur Leguet et Monsieur Feuillu. Feuillu, c'est le nom de Nicolas Garrigue des Soulèvements de la Terre dans ses prises de parole publiques. La préfecture a édité des interdictions sur 17 communes, des interdictions de manifestation. Mais des actions menées par des manifestants sur voie ferrée, puis convois avec 10 tracteurs. On a une vidéo avec Monsieur Leguet et Monsieur Garrigue qui courent avec tracteur, qui quittent la nationale sur le bord d'un champ. Monsieur Jaunet et Monsieur Giraud qui parlent à la foule au niveau du rassemblement. Bon, après, colonel Bastieu, blablabla, contact avec Nicolas Giraud, qui accepte de répondre au colonel, il demande de laisser passer les blessés, laisser passer les secours. Le colonel parle de flottement entre les organisateurs sur continuer ou non la manifestation. Les échanges se sont poursuivis, Benoît Jaunet qui proposait parmi les jeunes, la préfète, très bon côté tracteur, c'est tombé quand Benoît Jaunet avait voulu dire où serait ce stationné tracteur, si on est super, avec de nombreux blessés, Bref, sur le rapport que je viens de faire, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou est-ce que c'est conforme à la réalité? Monsieur Jaunet, c'est par là que ça se passe.
Je n'ai rien à déclarer. Je n'ai rien à déclarer non plus. Je n'ai rien à déclarer non plus. Je n'ai rien à déclarer non plus.
Bon, est-ce que vous répondrez aux questions?
Seulement sur la personnalité et je ferai une déclaration. Seulement sur la personnalité et je ferai une déclaration. Seulement sur la personnalité et je ferai une déclaration. Seulement sur la personnalité et je ferai une déclaration.
Bon, bien, nous n'allons pas développer les faits puisque vous ne voulez pas répondre aux questions. Nous allons vous écouter pour vos déclarations. Bon, je ne sais pas si c'est à vos conseils sur les statuts de la Confédération de Paysannes, mais la seule chose que nous avons, c'est l'attestation qui dit comment vous vous êtes organisé. Mais que dire de vos statuts avec vos rôles internes?
Je ne souhaite pas m'exprimer sur les faits.
Mais ce n'est pas les faits! Vous pouvez répondre sur le fonctionnement de la Confédération Paysanne!
Je m'en remets à mon avocate en dehors des questions de personnalité.
Monsieur, vous faites partie de l'organe exécutif du syndicat? Vous ne savez pas, d'accord. Bon, allez-y, Monsieur Giraud.
Et les déclarations au prochain épisode. Bravo.
Suite du procès du 27 mai 2026 au tribunal de Poitiers, audience suivie et brillamment restituée par des comédiennes avec un léger décalage.
Bien, nous allons maintenant entendre Monsieur Giraud pour sa déclaration. Monsieur Giraud, c'est à vous.
Depuis la naissance de ces projets de stockage, la Confédération Paysanne s'est impliquée dans la lutte pour la préservation et le partage de l'eau et contre les méga-bassines de Poitou-Charentes. En tant que syndicat paysan, nous nous opposons aux méga-bassines qui engendrent le détournement de l'eau au profit de quelques-uns et entérinent un partage inéquitable au sein du monde agricole. De nombreux paysans sont pris au piège d'un système dévastateur et le seront encore un peu plus avec ces projets mortifères. C'est notre tâche de syndicalistes que de leur proposer une autre issue. Cet accaparement de l'eau se fait au détriment de la majorité des agriculteurs, ceux non irrigants et ceux non connectés aux méga-bassines. L'agriculture a besoin d'eau, mais avant tout dans les sols, puisqu'en France, plus de 93% des agriculteurs n'irriguent pas et ne bénéficient que de l'eau qui tombe et de l'eau présente dans les sols. Nous devons donc collectivement choisir et établir quelle agriculture nous voulons et pour produire quelle alimentation, et définir ce qu'il sera indispensable d'irriguer demain pour bâtir notre souveraineté alimentaire. L'objectif étant de construire une agriculture productive et rémunératrice pour toutes et tous. Pour toutes ces raisons, oui, j'étais présent à cette manifestation interdite du 25 mars. On me voit répondre à la presse ou arriver avec le cortège de tracteurs notamment. Je faisais mon job de syndicaliste et de porte-parole nationale de la Confédération paysanne. C'est à ce titre que j'ai réalisé ces différentes tâches. Toutes nos décisions sont prises collectivement. Je les applique ici lors de cette manifestation pour porter la voix de milliers de paysannes et de paysans. Je n'ai pris aucune décision ou initiative individuelle, mais j'ai seulement assumé publiquement et politiquement les décisions prises dans nos instances nationales par les membres de notre comité national. Donc oui, j'y étais en tant que porte-parole de la Confédération paysanne, mais non, je n'en étais pas organisateur. Je n'ai fait que mon travail de syndicaliste paysan, engagé dans la défense des paysannes et paysans et la préservation d'un commun. D'autre part, et pour finir, nombre de ces bassines, dont celle de Sainte-Soline, ont été, depuis nos mobilisations jugées, illégales ou surdimensionnées. Est-ce que cela ne démontre pas notre légitimité à agir alors que ces constructions sont aujourd'hui majoritairement et illégalement toujours utilisées? J'ai décidé de ne pas répondre aux questions et de faire valoir mon droit au silence. Je vous remercie de votre écoute.
Silence dans la salle. Monsieur Giraud, avez-vous lu les statuts de la Confédération paysanne?
Je réponds sur le personnel, mais pas pour la Confédération, je laisse mon avocate répondre.
Ah, alors justement, votre avocate, Madame Marchessault, a dit un truc très intéressant. Elle a dit, je cite, « La Confédération des Deux-Sèvres et du National sont deux entités différentes, donc les statuts sont différents. » Et je dis, moi, un secrétariat départemental met en œuvre le national et le porte-parole représente. Le porte-parole fait partie de l'organe exécutif du syndicat. Vous avez lu les statuts? Vous savez que vous faites partie du comité exécutif? Vous ne savez pas? Ok, vous ne savez pas. Très bien. Eh bien, monsieur Jaunet, c'est à vous pour votre déclaration.
Je me présente devant vous en tant que paysan engagé et concerné par le changement climatique. Celui-ci me touche directement malgré que je pratique, comme tant d'autres paysans régulièrement invisibilisés, une agriculture résiliente sur ma ferme. Partage les ressources, montre qu'une autre agriculture est possible. Je suis inquiet de ses conséquences dans ma vie quotidienne et également dans mon travail. Je suis également inquiet de l'inaction de l'État, voire du recul pris pour modifier durablement les orientations agricoles, pour accompagner tous les paysans dans le changement de pratique et l'adaptation au dérèglement climatique. C'est dans ce cadre-là que, comme tant d'autres, j'ai participé à la manifestation du 23 mars 2023 à Sainte-Soline. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux empêcher la construction d'une méga-bassine tant qu'elle n'a pas toutes les autorisations, plutôt que d'attendre qu'elle soit déclarée illégale pour la déconstruire. Car une réserve d'eau de cette taille, ça ne s'efface pas comme ça du paysage et cela laissera des traces indélébiles sur un territoire. Depuis 2019 et jusqu'à récemment, j'étais également porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres, ce qui consiste principalement à rendre publiques des décisions, orientations et revendications prises collectivement au sein de notre comité départemental. Cela implique également de les développer, aussi auprès de la préfecture, de ses services et des médias locaux. En tant que porte-parole, nous n'avons aucun pouvoir de chef, d'initiative personnelle et encore moins d'organisateur de manifestations. C'est bien dans ce cadre que j'ai dialogué avant, pendant et après la mobilisation avec Madame la Préfète et ses services. Avec l'arrêt de mes responsabilités, je perds ce statut d'interlocuteur privilégié. Maintenant, d'autres paysans des Deux-Sèvres ont pris le relais. Dans cette journée du 25 mars, après avoir fait mon rôle de porte-parole sur une tribune, je suis partie manifester. J'ai découvert le camp militaire retranché, prêt à tout. Jusqu'à mutiler des corps de manifestants de tout âge, venus revendiquer le partage d'un bien commun, l'eau. Des milliers de gendarmes, armés jusqu'aux dents, étaient là pour protéger coûte que coûte ce tas de terre et ainsi défendre des intérêts privés. En milieu d'après-midi, j'ai fait mon devoir de citoyen et utilisé mes relations de porte-parole pour négocier auprès de la préfète Dubé la venue des secours au plus près des plus graves des blessés. Je suis allée seule, entre les grenades et les cailloux, chercher les médecins militaires pour prodiguer les premiers secours. Je suis revenue choquée et marquée par cette violence. À mon retour, je craignais que celle-ci ait été voulue et orchestrée jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Depuis, les enquêtes journalistiques l'ont largement prouvé. Aujourd'hui, et avec ce que j'ai fait, vu et vécu ce 25 mars 2023, je ne comprends toujours pas pourquoi moi, comme mes collègues, nous nous retrouvons ici jugés personnellement. Merci de votre attention, je n'ai rien d'autre à déclarer. Je laisse mon avocate compléter ma défense.
Bravo.
Merci, monsieur Jaunet. Monsieur Leguet, c'est votre tour, allez-y.
Madame, messieurs les juges, j'ai pu déjà dire au sein de cette cour mon implication dans le mouvement anti-vaccine en tant que co-porte-parole du collectif Vaccine non merci. Je n'en suis ni chef, ni même un maillon essentiel. Notre mouvement est un mouvement horizontal où les décisions et les responsabilités sont partagées par ses membres individuels et les organisations collectives, syndicats, associations, partis qui les composent. Hormis ce mandat de co-porte-parole qui m'expose et fait que je comparais une troisième fois devant vous, le 25 mars 2023, je n'étais qu'un manifestant parmi 30 000 autres. Je n'ai pas participé aux choix et stratégies de déploiement des cortèges. Je n'ai pas conduit de cortège ou donné de consignes durant la manifestation, ni même approché la bassine. Le 25 mars 2023, j'étais, vous le savez, sous le coup d'une sanction judiciaire qui m'interdisait et m'interdit encore de paraître sur les communes de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon pour la raison que deux méga-bassines y ont été construites. Avec mes proches, mes filles, ma compagne, mes camarades, il a été convenu que je ne franchirais pas ce Rubicon, sachant que si je bravais cet interdit, c'est l'enfermement à la prison de Vivonne qui m'était promis. Le 25 mars, je me suis arrêtée au milieu de cette longue marche qui conduisait mes camarades vers une pluie explosive déclenchée par les forces de l'ordre, aux ordres de leur hyper-hiérarchie militaire et du ministre Darmanin. Ce jour-là, nombreux d'entre eux ont jubilé des blessures qui nous ont infligées, tout en proférant des insultes pleines de haine et de mépris. Le 25 mars 2023, j'ai assisté impuissant au drame qui se passait devant mes yeux, là, dans cette grande plaine sans haie. Je voyais ce macabre feu d'artifice à 3 km de la bassine où je m'étais arrêtée. C'est quand j'ai vu passer la première ambulance que j'ai pris conscience de la gravité de ce qui était en train de se passer. J'ai alors couru vers le seul endroit où ma carcasse et ma paire de bras pouvaient être utiles, au campement, pour aller porter secours et soins à tous les camarades qui étaient rapatriés. Le 25 mars 2023, j'ai brancardé des dizaines de camarades, visages fendus, yeux sortant de leur orbite, chair des jambes lacérées par les éclats des engins explosifs de la gendarmerie. Le 25 mars 2023, j'ai appris que deux camarades étaient entre la vie et la mort. J'ignorais leur prénom. Le 25 mars 2023 et les semaines qui ont suivi, j'ai dû envisager prendre la parole pour commenter dans les médias et au nom du collectif la mort de Michael, la mort de Serge. Serge et Michael ne sont pas morts. Eux, Alix, Olivier et tous les autres se reconstruisent depuis ce jour. Et elles sont debout et encore plus déterminées à lutter pour l'eau, à lutter pour la vie, toutes les formes de vie. Mesdames, messieurs les juges, l'horreur de Sainte-Soline n'a pas éteint les mobilisations de la lutte contre les méga-bassines. Condamner quelques supposés leaders ne l'éteindra pas non plus, car il n'y a pas de leaders, seulement des personnes qui ont ouvert les yeux sur le péril que nous font courir ces infrastructures. Rappelons-le aussi, les méga-bassines présentent de véritables tares sur le plan juridique. À ce jour, la bassine de Sainte-Soline doit être considérée comme illégale et que le rapporteur public a demandé le 5 mai la destruction de 5 bassines en Charente-Maritime. Marcher pour la fin des méga-bassines est d'intérêt public. Condamner les personnes qui ont pris la parole pour le dire, c'est aussi, et malheureusement, menacer l'existence de ces marches et donc laisser une voie royale à l'accaparement en toute illégalité de la ressource en eau. No Bassaran, merci de m'avoir écouté.
Merci, monsieur Leguet. J'ai juste une question. Il a été proposé une manifestation autour de la bassine de Sainte-Soline avec les tracteurs, avec les drapeaux. Ce qui a été refusé, c'est qu'il soit procédé à des dégradations. Mais faire entendre la voix des collectifs, c'était possible. Ce n'est pas ça que vous recherchiez. Mensonge. Vous avez très envie de me répondre, monsieur
Leguet. Mensonge ! Mensonge !
C'est un trou. Aucune dégradation n'a été commise.
Donc pourquoi ne pas avoir accepté la proposition de la préfète des Deux-Sèvres ?
Une vendue.
J'essaye de comprendre.
Oui, moi aussi j'essaye de comprendre.
Très bien. Monsieur Benoît Feuillus, c'est à vous.
Dans ce tribunal, le parquet va sans doute tenter une nouvelle fois de mettre en cause de soi-disant organisateurs. Mais ce qui est en réalité demeure insupportable aux autorités, c'est que des dizaines de milliers de personnes de leur propre chef aient pris le risque, à l'époque, de braver une interdiction de manifestation parce que la cause qu'elles défendaient leur apparaissait juste autant qu'absolument urgente. La défense de l'eau face aux maladaptations du modèle agro-industriel répondait et répond toujours à un état de nécessité. En janvier dernier, j'ai été profondément choquée par le discours de Madame la procureure qui niait l'urgence à agir. Et donc cet état de nécessité en ce qui concerne le réchauffement climatique. Que des milliardaires et dirigeants politiques fous dangereux œuvrant pour maintenir à n'importe quel prix les profits des industries les plus destructrices de la planète fassent tout pour nier l'urgence, on ne le constate chaque jour que trop douloureusement. C'est autrement plus étonnant que l'on puisse tenir des propos aussi irresponsables dans le cadre censément sérieux d'un tribunal. Et ce, alors que 6 des limites planétaires, nous faisant passer un seuil d'irréversibilité critique pour la vie sur la planète, ont été dépassées entre 2015 et aujourd'hui, dont celle de la dégradation du cycle de l'eau douce. J'ose espérer, en cette fin de mois de mai suffocante, ne pas voir de tels propos se réitérer pour justifier qu'il ne soit pas absolument urgent de manifester contre des infrastructures dont l'impact immédiat et délétère sur nos territoires est pourtant avéré. Il est aussi ridicule qu'archaïque d'imaginer que, sur un enjeu aussi vital que l'eau, de grandes manifestations collectives puissent cesser parce qu'on l'en enfermerait, on bannirait aujourd'hui quelques-uns d'entre nous désignés comme organisateurs. Nos mouvements ne sont pas le reflet d'une quelconque structuration verticale et militaire. Ils ne se constituent pas en miroir de ceux qui nous ont lancé leurs grenades et de leurs colonels. Contrairement aux gendarmes qui s'émerveillent de pouvoir faire des tirs tendus dans la tête de design pulapis dans les enregistrements des caméras piétons du 25 mars, notre grand kiff dans la vie n'est pas pour notre part d'éborgner ou de blesser. Nous partageons, tout simplement, dirais-je, un besoin vital de maintenir nos territoires habitables pour nous et les générations futures. Et ce, contrairement à nos dirigeants, dont les politiques cyniques impliquent tout le contraire. Malgré la répression implacable dont il a fait l'objet et la suite de condamnations systémiques distribuées à la chaîne dans le tribunal de Niort, le mouvement anti-bassine n'a d'ailleurs pas cessé. Malgré les pressions et les lois d'urgence d'un gouvernement inféodé au lobby agrochimique, ce mouvement de défense de l'eau obtient gain de cause sur différents territoires. Cela n'aurait jamais été possible sans ces manifestants. Au vu du dossier d'enquête censé appuyer notre condamnation, désigner des organisateurs et les mettre sous le feu des projecteurs après les manifestations de Sainte-Soline a avant tout été un moyen pour les autorités de tenter d'escamoter ce qu'elles avaient elles-mêmes organisé. Dès la manifestation du 29 octobre, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait préparé l'opinion publique au fait de martyriser l'espoir collectif suscité par ces manifestations en nous traitant d'éco-terroristes. Le 25 mars 2023, il a de toute évidence ordonné aux forces de l'ordre de nous traiter physiquement à l'aune de cette vindicte. Le dispositif d'enquête à notre encontre, les questions biaisées qui nous ont été posées lors des interrogatoires, visaient avant tout, ensuite, à dédouaner ce ministre de l'Intérieur de choix de blesser délibérément des centaines de manifestants et manifestantes pour défendre un cratère, puis d'avoir entravé l'accès des secours aux blessés. Les instructions données par les gradés de la gendarmerie agissant sous ses ordres sont brutalement explicites dans quelques extraits vidéo piétons des gendarmes révélés l'automne dernier. On discerne le degré de préméditation cynique du commandement de la gendarmerie dans les propos d'un coach média qui dit explicitement à ses hommes « Il faut que la violence et l'action principale offensive semblent venir d'eux, avant que les gendarmes ne se voient pousser à des tirs tendus. »
Bon, Monsieur Gary, j'ai expliqué quel était le périmètre. Je pense qu'on peut aller plus vite sur la question des violences.
Madame la Présidente, laissez-le.
Vous me laissez terminer. On pourrait aller plus vite sur les faits de violence. Ce n'est pas l'objet.
Je vais vous répondre là-dessus.
C'est l'usage du droit que d'ouvrir avec la déclaration. J'observe qu'avec les déclarations des 4 prévenus, on n'est même pas à 20 minutes.
Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de sujet. J'aimerais qu'on limite les interventions, ou bien on pourrait aussi parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Le sujet, c'est l'organisation, ce n'est pas les violences. Et la
Cour ne traitera pas ce sujet aujourd'hui.
Ça nous paraît primordial, alors qu'on est mis en cause pour des sujets d'organisation, des faits d'organisation, à mettre au regard.
Bon, reprenez si ça vous paraît primordial.
Ça lui paraît essentiel, Madame la Présidente.
Ça fait d'autant plus partie du débat quand j'entends que dans une nouvelle étape de leur enquête exemplaire, Libération et Mediapart ont encore une fois pallié au manque de la justice et révélé l'identité du gendarme qui a réalisé un tir tendu sur Serge et manqué de le tuer. Ils montrent bien comment ce gendarme a été couvert par sa hiérarchie et par le parquet. Tout comme l'ensemble des autres gendarmes qui ont tiré en enfreignant toutes les règles. Tout comme leur donneur d'ordre. Beaucoup de personnes dans ce pays et au pied de ce tribunal se demandent depuis 2 ans s'il existe aussi une justice et des tribunaux pour les dirigeants politiques qui martyrisent sciemment leur population.
Bravo. Ouais, ouais.
Je me demande avec elles et eux aujourd'hui si cette justice et ces tribunaux sauront prendre le recul qui s'impose sur la gravité de la machinerie répressive qui s'est déchaînée contre des dizaines de milliers de manifestants et manifestantes de tout âge venus défendre l'eau le 25 mars 2023. En attendant, j'ai toujours la conviction insupportable que mes camarades et moi-même, nous sommes les boucs émissaires qu'un pouvoir criminel montre du doigt pour tenter de s'innocenter. Et je récuse ici de nouveau le fait que des porte-paroles puissent être jugées et condamnées pour la manifestation du 25 mars 2023. J'assume toutefois pleinement d'avoir participé, comme des milliers d'autres, à cette mobilisation. Malgré la répression inique que nous avons vécue, on se souviendra probablement des manifestations de Sainte-Soline comme d'un moment déclencheur dans le tournant qui se doit d'être pris pour protéger et partager l'eau. Les générations à venir, la nôtre aussi, devront vivre dans un monde plus ou moins mortellement desséché par le fait d'avoir compris l'urgence et d'avoir agi à temps ou pas.
Monsieur l'avocat général, vous avez des questions ?
Oui, j'ai des questions, évidemment j'ai des questions.
Monsieur Jaunet. Vous étiez le responsable de la conf des Deux-Sèvres. Vous pouvez nous rappeler les scores en 2019. Vous êtes arrivé en combien? Combien de positions? Combien? La conf est arrivée en 2e position. Et en 2025, vous êtes arrivé en combien? Combien? Ah! Je vais vous le dire. La conf paysanne dans les Deux-Sèvres est arrivée en dernière position. Donc ça veut dire que les agriculteurs ne suivent pas.
Non, ça, vous pourrez le développer dans votre plaidoirie. Vous le développerez plus tard.
Je veux simplement savoir, avec le recul, j'ai bien compris que vous dites ne pas avoir organisé cette manifestation, hein? Mais, est-ce que vous regrettez que cette manifestation ait été organisée? Je vois que vous me regardez, monsieur Leger. Vous me regardez, mais c'est une réponse que j'attends.
C'est pas un oiseau.
Monsieur Leger, vous devez être face à la cour et non derrière monsieur Garrigue.
Ah. Voilà, monsieur Leger. Est-ce que ce sont des défenseurs de l'environnement face à nous ou juste des militants d'extrême gauche? Hein? Monsieur Leger, vous étiez... Monsieur Leger, vous étiez candidat sur une liste de l'Union de gauche au départemental.
Posez vos questions, s'il vous plaît.
Je dis d'extrême gauche, car le Parti Socialiste n'était pas sur cette liste de l'Union de la gauche.
Quel est le rapport?
Vous étiez candidat, monsieur Leger. Monsieur Leger, vous avez été éliminé au premier tour.
Là, moi non plus, je ne vois pas le rapport.
Est-ce que vous étiez candidat ou est-ce qu'on est venu vous chercher pour vous mettre sur cette liste d'extrême gauche?
Là, vous devrez vous expliquer sur ces questions, monsieur l'avocat général. Là, vous êtes en train de poser des questions qui n'ont rien à voir et dont vous avez les réponses.
Oh, mais pour moi, c'est fondamental. Si je pose des questions, c'est que j'ai la réponse. C'est le travail de l'avocat. Hein? Il pose des questions parce qu'il connaît la réponse. Bien, je continue, madame la présidente. Est-ce que votre père, monsieur Leger, était aussi candidat sur cette liste à Mauléon, hein? L'action de monsieur Leger est donc une action purement politique. Ce n'est pas de la défense de l'environnement.
Et là, les gens ont applaudi dans la salle. Ah non, 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 là, vous voyez, c'est la limite, là. C'est la limite qu'on a atteint, là.
Est-ce que les prévenus peuvent s'asseoir?
Oui, asseyez-vous. Nous attendons maintenant les témoins. Et la suite au prochain épisode.
Non ! Bravo, bravo, bravo !
27 mai 2026, vous êtes toujours dans le parc situé en face du tribunal de Poitiers où, sur une petite scène, des comédiennes interprètent presque en direct le procès en cours. Quatre porte-paroles de Bassine Non Merci, des Soulèvements de la Terre et de la Confédération Paysanne comparaissent, injustement accusées d'avoir organisé la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline.
Alors, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont été transmises. On n'a pas pu tout vous retransmettre. Donc, les témoins sont passés les uns après les autres. Le premier témoin, c'est Nicolas Selnick, qui est journaliste, qui a écrit « Les assoiffeurs sur l'accaparement de l'eau ». Et juste après est intervenu un témoin qui est Michel Forest, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement.
Bien, Michel Forest, présentez-vous, s'il vous plaît.
Je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement.
Avez-vous des liens de parenté ou de subordination avec les prévenus ?
Je dois dire que je ne les connais pas du tout.
Pouvez-vous nous dire quel est votre domaine d'expertise ?
Mon domaine d'expertise, c'est les droits de l'homme en général. L'augmentation de violences et de répression à l'encontre des militants et militantes environnementaux a amené l'Organisation des Nations Unies à créer une cellule rapide.
Vous n'êtes pas mandaté par les Nations Unies, mais par la Ligue des droits de l'homme, nous sommes d'accord.
Je suis mandaté par les États. Quand j'ai été nommée en octobre 2022, la première mission, c'était de vérifier que les États respectaient les droits des militants environnementaux. On a visité plusieurs pays européens et on a été frappés, avec mon équipe, de la concordance des récits. D'abord, la médiatisation, sous forme d'accusations de terrorisme, etc., qui amenaient à de la violence policière et des jugements de plus en plus durs. Un papier sur ce que sont les nouvelles formes de mobilisation, notamment avec usage de la désobéissance civile. Il fallait rappeler aux États que les droits de ces manifestations sont protégés. Ensuite, j'indique aux États pourquoi les militants utilisent ces nouvelles formes non conventionnelles de mobilisation. C'est ce qui m'a amené à prendre la parole dans de nombreux procès partout en Europe. L'accompagnement des magistrats a été souvent très fructueux. Ce droit de manifester est protégé par le droit international, quand bien même la manifestation est interdite. Les manifestants, manifestantes et les organisatrices doivent être soumis à la règle de la proportionnalité. Les militants qui usent de ces formes de militantisme savent qu'ils dépassent la loi, savent qu'une réponse peut s'appliquer. Mais l'effet dissuasif de la sanction pénale est important. Nombre de jeunes sont contraints de s'éloigner de leur combat par peur de la répression et des répercussions d'une condamnation, l'inscription au concours par exemple. J'ai des contacts avec la Cour européenne des droits de l'homme, dont le président me dit qu'ils sont confrontés à un afflux massif de dossiers de militants climatiques qui vont contribuer à consolider une nouvelle jurisprudence, éloignant notamment la crainte des peines de prison pour les militants et militantes du climat qui usent de ces nouvelles méthodes. Les juridictions en appel doivent donc regarder vers cette cour.
Bien, merci Monsieur Forest. Partie civile, une question ?
Vous avez dit en introduction que vous étiez un militant pacifiste. Pensez-vous que les militants qui utilisent de la violence doivent donc être condamnés ?
Non, 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 nous avons de grandes discussions aux Nations Unies sur ce qu'est la violence légitime. Je parle là de la désobéissance civile.
J'ai là une citation de Le Guay qui dit « Nous appelons au débat ».
Oui, ce sont tout à fait des actions symboliques qui rentrent dans la désobéissance civile, qui ne sont pas de la violence entre les personnes.
Ah, donc les coûts de surveillance que doivent endosser les agriculteurs sont justes.
Ah, ça, ce n'est pas mon mandat. Moi, je m'occupe de la répression des militants et militantes et des actions non conventionnelles.
Que vous n'avez toujours pas précisé.
Bah, laissez-moi finir. Les actions non conventionnelles, comme dit précédemment, reviennent à la désobéissance civile.
Non, vous n'avez toujours rien dit.
Vous n'êtes pas d'accord, hein, voilà, c'est tout.
Moi, j'y crois pas, c'est mon opinion. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on a en face de nous des défenseurs de l'environnement? Bon, est-ce que vous pensez que les prévenus sont de vrais militants environnementaux?
Comme je l'ai précisé, je ne connais pas les prévenus. J'interviens par rapport à mon mandat.
Donc là, je vous le reproche. Vous ne connaissez pas ce qu'il s'est passé.
On vous remercie, on vous remercie.
Bien, j'appelle le troisième témoin, monsieur Bito.
Oui, bonjour.
Eh bien, allez-y, présentez-vous.
Benoît Bito, paysan et député de Charente.
Je suis militant paysan depuis 40 ans et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Sur la deuxième plus grande zone humide de France, c'est un sujet sensible. D'autant plus qu'une grande quantité d'argent public a été investi. Si les stockages de l'eau pourraient être efficaces, c'est si de grands travaux d'aménagement étaient mis en place au préalable pour que le milieu du marais Poitevin reste humide. Cette étude, elle dit que c'est la seule solution. D'abord, restaurer le grand cycle de l'eau, réparer les nappes de stockage souterraines, c'est la condition avant laquelle on pourrait réfléchir à du stockage. Dès la fin du XXe siècle, j'ai alerté. J'ai très vite tiré la sonnette d'alarme. Et l'écueil dans lequel vous tombez, c'est qu'on nous fait passer pour des anti-irrigation. Je ne connais pas une seule personne, même présente à Sainte-Soline, qui soit contre l'irrigation. Et pourtant, je n'irrigue plus sur mon exploitation. Et ça, c'est parce que je suis agronome et que c'est ma passion. J'ai donc dû trouver d'autres solutions. Et je produis autant que quand on irriguait. En tant qu'élu, je suis très attachée à l'utilisation de l'argent public dans l'intérêt de tous. Et dans ce cadre de la question du stockage, seuls 6% des agriculteurs bénéficient de cette eau. Et ça, ça va à l'encontre du commun de l'eau. Qui dit commun, dit partage. Et ça, ce n'est pas possible quand l'eau est stockée de cette manière. Il faut que l'eau s'infiltre pour permettre tous les usages, de la consommation humaine à l'agriculture et à l'industrie.
J'ai une question peut-être idiote.
Allez-y, c'est les meilleurs.
Est-ce que votre exposé était spécifique à ce territoire ou est-ce à l'échelle nationale?
La boussole, c'est le code de l'environnement. Chaque territoire a ses spécificités. À chaque fois qu'on crée des stockages de l'eau, l'usage ne va pas forcément être le même.
Ah, vous admettez que ce sont des spécificités sur le coin?
Le marais de Poitevin, c'est la zone de France la plus éloignée des châteaux d'eau qu'on appelle les montagnes. Et donc, qui a le plus besoin de retenir l'eau. Et là où les retenues collinaires sont mieux acceptées par les populations. Chez nous, où c'est aussi plat qu'une carte postale, on ne peut pas. Et ça passe donc par le stockage, par les arbres, les haies.
Est-ce que vous pourrez nous poser la même question du stockage de l'eau dans le marais Poitevin à nous, en tant que partie civile?
Je termine, puis tout le monde aura sa question. Pour avoir entendu les mêmes discours avec les mêmes intervenants, on a l'impression que personne ne dit la même chose.
Je m'autorise à dire que la science et les experts... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des 10 experts qui ne sont pas des scientifiques.
Ce que je veux dire, c'est que la vérité est partout et nulle part. Hein. Les seules consultations sous forme de réunions publiques et de confrontations ont été portées par ceux qu'on appelle les opposants. Bon, je vais poser la question à la partie civile qui meurt d'envie d'y répondre. Ils vont peut-être vouloir nous éclairer sur la spécificité du territoire.
Alors, on est dans une zone où les nappes sont superficielles. C'est-à-dire à la surface. Donc on ne va pas puiser dans le fond. On prend cette eau qui sinon irait à la mer. Parce qu'on est au seuil du Poitou. C'est pour ça qu'on prend l'eau dans ces nappes superficielles.
Est-ce que je peux réagir?
Attendez. Les nappes sur notre territoire, elles sont dites réactives. C'est-à-dire qu'elles se remplissent et qu'elles se déchargent très vite. Mais si cette eau part très vite, c'est parce que ceux qui veulent du stockage, c'est les mêmes qui ont arraché les haies et les arbres. Normalement, cette eau, elle se vidange dans la zone humide, et ça, c'était très important. Ils ont fait que l'eau part toujours plus vite à la mer pour aujourd'hui nous dire que l'eau part trop vite à la mer.
Merci, merci, on va s'arrêter là. On n'est pas à l'Assemblée. C'est moi qui mène les débats et j'ai eu mes réponses. Bien. À vous. Est-ce que vous avez des questions?
Oui.
Je reviens sur la manifestation de Mosée sur le Mignon. La première mobilisation, vous savez qu'il y a eu des dégradations sur un engin de chantier.
Oui.
Ensuite, à Epan.
J'étais pas là, j'avais le Covid.
Il y a eu des dégradations à Epan chez un agriculteur bio. La Confédération paysanne, d'ailleurs, s'est excusée. Comment avez-vous pu croire que la manifestation de Sainte-Soline ne serait pas violente? C'était annoncé.
Par Darmanin, oui.
En tout cas, était-ce vraiment une bonne idée d'organiser cette manifestation?
Précisément, je vais répondre sur pourquoi j'étais à Sainte-Soline. Quand les citoyens ont saisi par la voie de justice et que la justice leur a donné raison et qu'il ne reste qu'un outil qui est dans la Constitution, le droit à manifester, je trouve qu'on va beaucoup trop loin dans l'atteinte citoyenne. Il a été mobilisé à Sainte-Soline 3000 policiers qui avaient la volonté de défendre un trou vide financé par 70% d'argent public. Les gardiens de la paix, je préfère les appeler comme ça, auraient pu être là pour accompagner les manifestants pour visiter un chantier.
Monsieur Bito, est-ce que vous savez quelles avaient été les propositions de la préfecture pour cette mobilisation ?
La préfecture a interdit la manifestation.
Est-ce que vous savez ce qui a été proposé ? Car il y a des contacts préparatoires avec différentes organisations comme celles qui sont représentées ici. Ce qui a été proposé, c'est... Vous aurez l'autorisation d'approcher de la réserve avec les tracteurs, avec les drapeaux, avec un point presse si on a l'assurance que les tracteurs repartiraient et quelque autre point de garantie de maintien de l'ordre.
Non, je ne la connais pas.
Et cette proposition a été refusée, malgré ce qu'elle traduisait de liberté d'expression, de volonté d'informer, etc., etc., etc. La condition préalable pour la préfecture, c'était aussi... que cette manifestation, elle, soit déclarée pour permettre de mettre aussi en place les dispositifs de secours et de garantir qu'il n'y ait pas de dégradation.
Mais il n'y avait rien à dégrader. Il y avait des tirs des policiers loin de la bassine. Je suis députée, je suis très attachée à l'état de droit. Aussi, l'état de droit, c'est la parole scientifique et c'est entendre la parole des citoyens quand ils sont mécontents.
Donc, pas d'autres questions ?
Si. Oh.
Est-ce que vous avez l'avis d'une académie qui se prononce contre le stockage de l'eau? Toutes les académies sérieuses se prononcent pour. Qu'est-ce que vous appelez une académie? Eh ben, une académie qui travaille sur ces questions et toutes se prononcent pour.
Est-ce que je peux faire référence aux débats qui ont lieu à l'Assemblée en ce moment dans le projet de loi agricole? Quand le projet de loi a été étudié, il y a eu une multitude de références. Donc on a auditionné beaucoup de scientifiques sur le stockage de l'eau. Un seul s'est prononcé favorable au stockage de l'eau. Tous les autres ont dit que c'était une maladaptation. On essaye de trouver des réponses pour sortir la profession agricole de la difficulté. Les agriculteurs vont être les premières victimes car 4 années sur 10, on ne pourra pas remplir ces infrastructures.
Ce qu'il me répond, c'est que les bassines ne sont pas assez efficaces. Ça n'a rien à voir. Bon, vous avez eu la réponse à votre question. Bon, autre chose à dire, partie civile? On a supporté leur propagande tout le temps, là. Ça suffit, hein. Vous avez votre collègue, là, la Sandrine Rousseau, qui a dit qu'elle avait rien à taper des revenus des agriculteurs. Est-ce que vous dites ça, vous aussi?
Je siège aussi avec Vauquier, hein. Et je m'appelle pas Sandrine Rousseau.
Monsieur Bito n'a pas à faire le commentaire d'autres élus. Est-ce qu'on en a fini avec les questions? Madame l'avocate générale.
Vous dites que tous les recours étaient épuisés, mais la décision de Bordeaux est postérieure. Il y avait encore des procédures en cours et qui fonctionnent, ça questionne. Et je voulais savoir où nous en étions à l'heure actuelle sur cette bassine.
Mais le chantier était déjà lancé, donc fallait tirer le signal d'alarme.
Mais elle n'était pas construite. Il n'y avait pas d'eau.
Si, le terrassement était fini.
Je crois que vous avez répondu à la question de l'avocat général. Monsieur Bito, merci. Vous pouvez disposer. Bien. Les prévenus se sont avancés. Il est précisé qu'aucun d'entre vous n'avait de casier judiciaire au moment des faits. Monsieur Benoît Jaunet, quelles sont vos activités?
Je suis paysan depuis 17 ans, installé en individuel. Je suis agriculteur en polyculture, élevage, donc essentiellement de l'herbe pour mes vaches. Je n'ai plus de rôle à la Confédération paysanne.
Vous êtes marié, vous avez des enfants?
Je suis pacsée et j'ai 2 enfants.
Quel revenu avez-vous?
Je vis de l'activité de la ferme et je dégage un revenu à peu près équivalent à 2 SMIC selon les heures de travail.
Votre compagne travaille avec vous?
Ma compagne a un travail extérieur à temps partiel.
Vous évaluez vos charges à combien sur vos emprunts?
J'ai 1 200 € d'emprunt pour la maison. Pour l'exploitation, quand je parle de mon revenu, c'est déduit par rapport à l'emprunt.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur votre situation?
Non.
Monsieur Giraud, même question.
Je suis toujours paysan dans le Jura. Depuis le début des années 2000, on produit du lait avec mon frère pour fabriquer du comté. En termes de revenus, je suis entre 1500 et 1800 euros par mois, même si on n'a pas de salaire en tant que tel. Pour environ 50 heures semaine, donc on est en dessous du SMIC horaire.
Vous êtes mariée, vous avez des enfants ?
Je suis mariée, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, encore 2 à charge. Pour l'instant, ils ne sont pas dans des études agricoles.
Concernant la Confédération paysanne, vous êtes encore porte-parole, vous siégez encore ? Donc vous êtes toujours élu régional, mais sans responsabilité nationale.
Je suis militant local, et je suis élu au niveau départemental, mais j'ai plus de responsabilité sur le plan national, conformément au statut de la Confédération paysanne, que vous lirez.
Monsieur Le Guay.
Oui, alors moi, je bénéficie du RSA. J'ai 3 grandes filles à qui je verse la moitié de mon RSA. Je m'en sors grâce à un mode de vie extrêmement frugal et à un hébergement à titre gratuit. J'ai écopé d'une peine de 6 mois de bracelet électronique, comme vous le savez bien, et à 20 000 euros d'amende.
Vous êtes au RSA depuis combien de temps ?
Je suis au RSA depuis 2021. J'ai arrêté mon activité salariée car le collectif pour lequel je travaillais était impacté par mon activité militante.
Donc là, si vous cherchez du travail, votre militantisme va être impacté. Vous envisagez de retravailler ?
Oui.
Quelle était votre activité ?
J'étais animateur, éducateur à l'environnement.
Bien. Monsieur Gary, même question, quelle est votre situation ?
Je fais du travail agricole et de l'accompagnement juridique sur les questions d'habitat, notamment.
Dans quel cadre, l'accompagnement juridique ?
Bah, vous avez qu'à dire que c'est du travail associatif. L'accompagnement juridique, c'est sur les régularisations d'espaces qui ont été préservés de la construction d'un aéroport. Sur Notre-Dame-des-Landes.
Donc en fait, c'est sur un plan juridiquement cadré, il n'y a rien, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a rien. Le travail agricole fait l'objet de contrats, c'est de l'intérim.
Je vis avec des faibles revenus. Le travail agricole fait parfois l'objet de contrats de travail, ça dépend des mois. Je m'appuie sur ma compagne, sur son activité d'élevage et la réalité de l'activité agricole étant ce qu'elle est, je ne suis pas toujours déclarée.
J'ai du mal à qualifier l'accompagnement juridique sur une question d'habitat. Que je comprenne, si vous en tirez des revenus. C'est quoi ce travail ?
C'est beaucoup de travail pour peu de revenus. Puisqu'on a su préserver ces terres du béton, ça génère tout un tas d'activités. C'est du bénévolat, mais disons que c'est d'utilité publique.
On va rester sur bénévolat. Vous indiquez avoir très peu de revenus, approximativement...
Des revenus à moins de 1000 euros par mois.
Vous travaillez avec votre compagne ? Vous avez des enfants ?
Non.
Bien. Messieurs, si vous n'avez rien d'autre à nous dire, je vais vous inviter à vous asseoir.
Nous n'avons pas la suite. Et on propose que la suite, ce soit elle et eux qui vous la racontent après leur procès. Parce que nous n'allons pas refaire de retransmission, mais on vous remercie. Et on remercie toutes les personnes qui ont permis à cette retransmission d'exister. Donc les personnes qui prennent les notes, qui prêtent les costumes, qui gèrent la technique, qui font la base arrière, tout ça. Merci.
Après des heures d'audience, les 4 inculpés ressortent enfin du tribunal de Poitiers. Julien Le Guay, co-porte-parole de Bassine Non Merci.
Je sais que vous avez eu des superbes retranscriptions.
Je pense même que vous avez dû bien vous marrer à certains moments, parce qu'on avait un clown professionnel dans la salle. Clown sinistre, ouais, le meilleur avocat de France en la personne de Monsieur Jambon. Jambon. Non, ouais. Ah si, moi je fais au contraire de la pub. Hein. On va avoir les dates pour aller le voir en tournée. Si vous n'avez jamais assisté à une plaidoirie ridicule, voilà. Plus sérieusement, bah, vous avez dû entendre les réquisitions. Plus ou moins, ils proposent la reconduction à l'identique des peines qui avaient été retenues en première instance. 1000 euros à nos camarades de la conf, à Nico et à Benoît. Ils réclament 3 mois de sursis, évidemment reconduit avec interdiction de territoire pour ces deux-là, des Deux-Sèvres, et pour ma part pour Sainte-Soline et Mosée. L'interdiction de port d'armes, donc ça on a déjà dit qu'on n'en avait pas grand-chose à carrer. Et ouais, peut-être que la flûte est une arme. Bon, et la proc qui a considéré quand même cette histoire de confiscation d'armes était un non-sens. Donc je pense qu'il y aura ça au moins la prochaine fois. Et donc pour ma part, j'enquière la peine maximum pour ce type de fait. Le maxi, c'est 6 mois et c'est ce qui a été réclamé. J'ai envie de le positiver en se disant que j'aurais pas de mauvaise surprise comme la dernière fois à avoir 6 mois de bracelet où c'était pas attendu. Voilà, le délibéré est lancé pour le 1er juillet. À partir de ce moment-là, en fonction de la décision, on va l'entamer un petit peu en amont. On se posera la question de savoir s'il y a cassation derrière, si la cassation n'est pas satisfaisante, est-ce qu'on va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais m'arrêter là, et peut-être si dans vos interventions, les camarades, on a eu des super, super témoins à qui il faut vraiment rendre hommage et qu'on dit des choses très, très importantes. Mais je m'arrête là.
Ouais, moi, je voulais dire un mot sur ce qu'ont pu nous dire les avocates et un peu le ressenti qu'on a pu avoir. Je ne sais pas si c'est de bon augure ou quoi, mais le ministère public, la procureure a semblé le faire à minima, nous ont dit les avocates. Est-ce qu'elle y croit pas ? Est-ce que... Même si elle a fait les mêmes réquisitions avec les mêmes peines, elle a plusieurs fois exprimé le fait que bon, ça aurait pu être ces quatre-là, ça aurait pu être plein d'autres. On a pris ces quatre-là parce qu'ils étaient visibles et que c'était plus simple. Elle l'a exprimé comme ça. Alors moi, je ne suis pas juriste, encore moins avocat, mais parce qu'ils sont visibles et que c'est le plus simple, ce n'est pas des termes juridiques, quoi. Ça paraît un petit peu léger comme argument. Et quand même des magnifiques plaidoiries de nos avocats et avocates et en effet des témoignages. J'ose envisager, si ce n'est une relaxe, en tout cas un allègement de tout ça parce qu'il y a eu un super boulot de fait dans ce tribunal par nos avocats. Et je voulais vous remercier encore tous et toutes d'être là. C'est chouette. Merci à vous.
Effectivement, en sortant, heureusement, on a fini par les meilleurs des avocats, qui sont les nôtres. En remettant les choses à leur place, même si il y a Sainte-Soline 1, Sainte-Soline 2, les manifs ne sont jamais les mêmes, elles ne sont jamais faites pareil. Le mélange de genres ne fait pas une décision de justice. Et c'est quand même ça qu'on a senti, et que ça a été bien défendu par nos avocats, avocates. Et effectivement, moi aussi, j'ai envie d'y croire, même si il a été demandé la même chose. La présidente du tribunal, aujourd'hui, ne semblait pas vraiment à notre faveur. Mais la manière de démontrer que ça a été fait à la va-vite et qu'on serait les coupables idéales, et encore une fois, de mélanger les genres, de vouloir nous invisibiliser, de mélanger la manif du samedi avec la présence des tracteurs le vendredi, ça joue réellement quand même en leur défaveur. Et à minima, moi aussi, je pense que ça ne peut jouer qu'en notre faveur pour une diminution de peine. On restera à leurs yeux, et on l'avait compris dès le premier jour, le reflet facile à choper, et ils l'ont redit, d'un mouvement qui, après nous, continue au sein de la conf, mais au sein de la société, et que la lutte continue, elle continuera après nous, et elle continuera même si nous sommes condamnés. Nova Sarane.
Benoît Feuillu, co-porte-parole des soulèvements de la Terre.
Et moi, je vais dire un petit mot pour finir. Quand on dit que le parquet a fait le job minima, elle l'a fait mollement, mais en fait, elle a quand même redit qu'il n'y avait ni état de nécessité, ni urgence à agir au vu des problèmes environnementaux et climatiques, ce qui, moi, continue de me choquer profondément, et j'imagine vous aussi, si vous aviez été dans la salle. Et vous voyez, quand c'est nous qui parlons, bah t'as toujours ce truc de classe un peu avec les juges, où nous on est des simples militants, on gagne pas bien notre vie, on est des paysans, paysannes, ou je sais pas quoi, et t'as toujours l'impression que ton droit à la parole est quand même mesuré, puis qu'elle te regarde vite d'une manière un peu condescendante, surtout quand par ailleurs t'as décidé de faire une déclaration, et puis de pas complètement jouer le jeu, de répondre à ces questions après, même si c'est ton droit le plus élémentaire, en tout cas c'est ton droit au tribunal. Et là, on avait un gars un peu spécial dans le tribunal, ça n'a pas été évoqué. On avait un type qui a un statut comme ça, il se trouve que c'était Michel Forst, qui est rapporteur spécial aux Nations Unies sur les questions de répression des militants environnementaux. Et là, tout de suite, tu vois, le gars, ça fait un peu autre chose face à la juge. Là, elle lui souriait un peu, elle lui parlait un peu mieux, etc. Et ce qui était intéressant, au-delà de cette question de statut qui tout d'un coup fait que certaines paroles peuvent être plus entendues que d'autres, et encore, moi je dis ça, je suis, vous voyez, je suis un homme blanc d'un certain âge, je suis pas, voilà, un jeune de cité racisé, enfin le genre de personnes qui veulent absolument encore moins écouter dans les tribunaux. Moi, ils m'écoutent à moitié, il y a des gens qui écoutent encore beaucoup moins que ça. Lui, elle l'écoutait un peu, et en fait, ce qui était vraiment intéressant par rapport à un parquet et à des avocats de la COP de l'eau ou l'espèce de fou cinglé de la coordination rurale qui vont vous expliquer en long et en large, parce qu'en vrai, il faut vous dire que c'est endurant, on se tape quand même 3 heures à entendre des gens qui vous disent « Il n'y a aucun problème avec les bassines, c'est bien, c'est bénéfique, ça a été tout concerté, c'est génial, il n'y a pas de problème climatique, c'est bien, on ne voit pas pourquoi les gens manifestent. » Vous entendez ça quand même, ça dure longtemps là-dedans. Et il y avait ce monsieur Forst, rapporteur spécial des Nations Unies, qui a exposé très calmement, de manière assez convaincante et argumentée face à la juge, que au vu de l'état du monde, au vu de l'état de la planète, au vu de l'état de l'eau, c'était assez indispensable aujourd'hui que des gens puissent exercer de la désobéissance civile, faire des manifestations non conventionnelles, il disait. Il l'a dit, il l'a redit plusieurs fois, et non conventionnel, il l'a rappelé, parce que vous voyez, on nous dit qu'on est super violent, voilà, quand on va démonter une bassine. Et lui, il l'a redit maintes fois, il a dit « La violence contre les biens, ça n'existe pas, ça n'existe pas, vous voyez ?» Moi, c'est le message que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Ça a assez scandalisé le gars de la coordination rurale. La violence contre les biens, au vu de l'état du monde, ça n'existe pas. Et par contre, faut y aller, quoi.
On passe, passe, on démontra toutes les bassines.
Et tout l'après-midi, il y a un truc qui m'a rassuré quand on entendait de manière un peu endurante tous ces gens raconter des insineries, c'est que je savais qu'il y avait Édredon Sensible qui allait jouer à la fin, et ça m'a fait tenir tout l'après-midi. Du coup, j'espère que vous allez rester pour eux, parce que moi, c'est ça qui m'a tenu, quoi. Merci à vous d'être là. Et vous, bien sûr, quoi.
Et en effet, ben, c'est l'occasion vraiment, là, au nom de tous les quatre, de remercier toutes celles et ceux qui se démènent depuis des semaines pour que ces rassemblements aient lieu. Les camarades qui ont chargé des camions hier, les camarades qui ont monté ces structures dès hier et ce matin, etc. Les camarades qui ont fait du soin, les camarades qui ont fait à manger. En fait, c'est ça une lutte vivante. Et vous l'avez compris, nous, dans cette lutte, on est juste ceux qui sommes devant avec le micro. Notre rôle s'arrête là. Mais notre lutte, elle est vivante parce qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde trouve sa place. Noba Saran.
Et à 19 juillet, le méga canal. Et 26 septembre, les pesticides.
Et comme à chaque fois que Bassines Non Merci organise une action, la journée s'est terminée en fête avec des super concerts. Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette retransmission de ce procès de Poitiers du 27 mai 2026, à télécharger via notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre préférée, Noba Saran, Noba Saran, ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.